Marcos, une émission proposée par Michel Niaille.
Bonjour chers amis, nous allons essayer aujourd'hui de voir dans quelles conditions va se préparer la loi de 1905. Eh bien, les conditions sociales et politiques, elles sont très violentes et par certains côtés très rudes. Ce qui vous explique que le conflictuel, qui est dû essentiellement à la manière dont, comme je l'ai expliqué la dernière fois, l'Église catholique se comporte de plus en plus comme une force revenir en arrière, pensant que la démocratie, la République, la liberté dans tous les sens du terme est contradictoire avec l'enseignement de l'Église catholique et qu'il faut donc arrêter cette dérive. Et évidemment, tout va y passer dans les quelques années qui précèdent la loi de 1905, notamment à partir des années, je l'ai dit, 1880. De son côté, vous l'avez vu, les républicains qui ont gagné les élections vont essayer de mettre des éléments sur lesquels on ne pourra pas revenir, qui laïcisent une bonne partie de la société et surtout des institutions françaises. Alors, à la toute fin du 19e, vous en souvenez, l'affaire Dreyfus empoisonne encore plus, s'il en était besoin, les relations entre l'Église et la République, puisque l'Église catholique est franchement du côté des anti-Dreyfusards. Elle est très antisémite et au nom d'une vision assez cocardière de la République, en tout cas de l'État, elle mène le combat contre toute forme d'apaisement. À la fin du 19e, comme la République a voté une loi sur les congrégations et a privé les congrégations de leur droit d'enseigner, on va expulser manu militari les congrégations religieuses, essentiellement masculines, qui enseignaient en France, ce qui donne lieu à des spectacles un peu dramatiques et mis en scène, notamment dans la neige, l'expulsion des chartreux qui partent à la queue-leu-leu pour rejoindre un pays lointain, l'expulsion des hommes ou des femmes de certains couvents, bref, une espèce de rupture qui n'était pas pensable certainement quelques années après. Arrive la loi de 1901, on est au tout début du XXe siècle, et là, la loi sur l'association, si j'ose dire, en rajoute une couche, puisque vous connaissez tous le chapitre 1 de la loi de 1901, qui est le chapitre concernant les associations civiles, qui est extrêmement libéral, et vous vous souvenez certainement qu'on peut fonder à deux simplement une association, il suffit qu'il y ait un président et un trésorier. Et il n'y a aucune contrainte ni juridique, ni économique qui pèse sur les associations. En revanche, dans cette loi, le chapitre 2, que peu de gens connaissent, porte sur les congrégations, et alors là, c'est le tour de vis supplémentaire dans la gestion du religieux en France. Bref, on aboutira 4 années plus tard à la loi de 1905, qui est considérée par l'Église catholique et notamment par le pape comme une véritable catastrophe. Et le pape Pie X, en 1906, va écrire une encyclique, Vehementer Nos, c'est nous le pape, avec force, de manière véhémente, nous opposons à ce texte. Et donc, cette encyclique demande aux catholiques de ne pas appliquer la loi de 1905 et donc engage une véritable épreuve de force avec la République. Donc, vous voyez que, selon le mot de Victor Hugo, mettre l'Église chez elle et l'État chez lui, c'est pas une affaire simple. Et c'est donc dans cette ambiance-là que va se préparer la loi de 1905. Alors, mettons au clair les préalables de ceux qui mettent en place le projet de séparer l'Église de l'État. À la vérité, il y a déjà plusieurs projets correspondant à des sensibilités politiques différentes. Mais celui qui, depuis la fin des années 1890, est le président du Conseil, on dirait aujourd'hui le Premier ministre, c'est un certain Combes. Alors, ce monsieur Combes, nous le connaissons, il est du Tarn, il est d'une région tout près de Castres. Il a fait des études secondaires et supérieures dans un séminaire, puisque théoriquement, il aurait dû être curé. Ça ne s'invente pas. Et il rompra avec l'Église catholique et avec sa foi primitive, et il va devenir un radical au sens du Parti radical qui est né en 1901, c'est-à-dire qui met en avant une vision assez voltairienne des rapports avec la religion, une vision très petite bourgeoise de la propriété et une vision très républicaine du système politique. Et donc les radicaux, puis plus tard les radicaux socialistes, c'est-à-dire ceux qui vont matiner leur radicalisme d'une vision socialiste des rapports sociaux, ce radical, qui est le petit père Combes, va imaginer qu'à la suite des déboires continus depuis l'affaire Dreyfus, l'opposition du pape, notamment lorsque le gouvernement va aller visiter le roi d'Italie sans aller faire la visite protocolaire au Vatican, va être convaincu que on ne peut plus en rester à la situation du concordat de Napoléon et que l'Église catholique représente un vrai danger. Et donc l'idée du père Combes, c'est de renforcer le concordat, non pas de le supprimer, comme le demandent déjà certains, non pas de simplifier, je dirais, de libéraliser les rapports entre l'Église et l'État, mais au contraire de renforcer ce moyen extraordinaire qu'a l'État de contrôler l'Église catholique et d'éviter qu'elle puisse peut-être un jour mettre à bas la République. Donc, il s'engage dans une voie extrêmement coercitive, on pourrait dire, je ne dis pas violente, mais en tout cas forte, à l'égard de l'Église catholique. Se constitue à la Chambre des députés, ce qui est normal pour toute législation, une commission parlementaire qui est chargée de préparer le projet de rapport. On ne dit pas toujours de séparation, mais des rapports entre l'Église et l'État. Il faudrait dire les Églises et l'État. Mais évidemment, la bête noire des parlementaires, c'est l'Église catholique. D'autant que, ne l'oubliez pas, siège, on va le voir à la Chambre des députés, des curés, des membres du culte catholique. Cette commission parlementaire, elle va se doter d'un rapporteur qui, théoriquement, n'est que celui qui met sur le papier les idées maîtresses du président de la commission. Et ce rapporteur, c'est un jeune député que personne ne connaît, qui est Aristide Briand. On le connaît un petit peu parce qu'il semble qu'il a eu une aventure avec une femme mariée, ce qui, à l'époque, défrayait un peu la chronique. Mais c'est un petit jeune qui, jusque-là, n'a pas fait parler de lui. Il y a pourtant, dans cette commission, des personnages très important, je vous en cite quelques-uns, dont certains sont des protestants. Il y a Ferdinand Buisson, d'une famille protestante, évangélique, mais très, on va le voir bientôt, abandonnant sa foi protestante et devenant un vrai radical, en tout cas un vrai homme de la fin du 19e et du début du 20e, assez éclairé. Et qui va devenir le responsable de la scolarité, puisque c'est lui qui va être le responsable de l'enseignement à partir de 1880 et qui va être très important dans l'édification d'une école républicaine et donc laïque. Il y a un héritier d'une grande famille protestante, monsieur de Pressensé. Alors, ça vous dit pas grand-chose, mais le père était un pasteur, et le fils de Pressensé, il a alors complètement oublié sa foi protestante, mais il lui reste quand même des habitudes, un carnet d'adresses et un milieu dans lequel il est à l'aise, monsieur de Pressensé. Et puis, il y a évidemment un homme vers lequel se tournent tous les regards, c'est Jean Jaurès, qui est le responsable d'un parti plus à gauche que les radicaux, le Parti socialiste, et qui est un homme surtout qui a une belle voix, qui sait se faire entendre et qui est très convaincant, et qui depuis déjà plusieurs années a fait parler de lui, notamment à propos des grèves ouvrières à Carmaux, dans le Tarn, puisqu'il est député du Tarn, où il a défendu brillamment les grévistes de cette mine, et il s'est fait un nom, il s'est fait élire constamment. Il a même été élu conseiller municipal à Toulouse. On aurait pu imaginer qu'il fasse une carrière de maire de Toulouse. Donc, dans cette commission parlementaire, les premiers conflits vont éclater entre ceux qui veulent aller jusqu'au bout d'une position de force contre l'Église catholique et ceux qui témoignent d'une certaine, douceur dans les rapports, en pensant que l'objectif de la République n'est pas de mettre à bas l'Église, mais de faire en sorte qu'elle ne puisse pas nuire à la République. Et vous voyez qu'il y a plus qu'une nuance entre la position ultra volontaire d'un comble qui veut mettre l'Église à genoux, si j'ose dire, et l'obliger à respecter la République, et ceux qui disent la seule solution, c'est de séparer, selon toujours le mot de Victor Hugo, l'Église chez elle et l'État chez lui. Les choses avancent à partir de 1901-1902. En 1903, nous avons un projet de Monsieur de Pressensé, qui est un projet assez équilibré, mais combattu par Combes. Et Combes va aller de plus en plus loin dans son attitude anticléricale. Et notamment en 1904, il a une idée qui est de contrôler les militaires de haut grade, qui sont la plupart du temps très catholiques et extrêmement réactionnaires au sens politique du terme. Malheureusement, cette affaire est éventée par journalistes et on apprend dans les journaux que M. Combes a demandé à certaines organisations, pour ne pas la nommer la grande organisation qui est l'organisation maçonnique du Grand Orient de France, de, on dirait un terme aujourd'hui un peu vulgaire, de fliquer les hauts gradés, c'est-à-dire de faire une enquête sur les généraux et les colonels pour voir s'ils vont à la messe le dimanche avec leur famille, s'ils ont telle ou telle opinion, et donc bloquer leur progression dans la carrière, éventuellement empêcher qu'ils n'aient des postes importants. C'est une vision un peu ancien régime, je trouve, de contrôler les fonctionnaires et qui est complètement contradictoire avec l'idéologie républicaine de la liberté de penser, même si encore on n'est pas dans la laïcité. Mais que chacun ait le droit d'être catholique s'il le veut, même un catholicisme très traditionnel, ne peut pas être remis en cause dans une république. Alors évidemment, on commence par faire démissionner le général qui était le ministre de la guerre, on dit aujourd'hui ministre des armées, mais rien n'y fait, la cabale monte et Combes est obligé de démissionner. Le ministère tombe et Combes est remplacé par un homme plus modéré, Monsieur Bienvenu Martin, qui va prendre en main les destinées de la commission et surtout du projet sur les rapports avec l'Église. Et l'heure a sonné pour que Aristide Briand puisse désormais développer, puisque Combes n'est plus là, sa propre représentation des rapports avec l'Église catholique, la relation entre la République et l'Église catholique qui n'a plus rien à voir avec le projet de Combes. Donc Combes a démissionné et c'est désormais dans la commission parlementaire Aristide Briand qui va diriger, soutenu par Pressensé, soutenu par Ferdinand Buisson et soutenu par une force importante qui est Jean Jaurès. Alors ces débats, ils vont quand même avoir lieu, pas simplement dans la commission, mais lorsqu'elle aura produit son projet, qui est en fait le projet Aristide Briand, elle va donner lieu à des empoignades dont la Troisième République avait le secret au sein de la Chambre des députés. Qui y a-t-il pour siéger dans cette Chambre des députés ? À l'extrême droite, nous avons des députés monarchistes, et oui, et catholiques. Vous avez encore les irréductibles qui avaient espéré en 1875 rétablir la monarchie et qui ont été déçus par ce que j'ai expliqué, le fait que le seul prétendant avait des prétentions telles que ce n'était pas possible. de Baudry d'Alzon. Alors, c'est une merveille. Ce bonhomme, il croit qu'il est encore au XVIIIe siècle. Il règne sur ses terres comme un ancien gentilhomme. Il a des relations avec les travailleurs sur ses terres qui sont celles de l'Ancien Régime. Il a une conception de l'Église absolument plus que classique, mais réactionnaire de retour. Et il va mener des combats qu'on imagine mal encore aujourd'hui, pensant qu'il faut rétablir l'Église catholique dans toutes ses, dans tous ses droits les plus archaïques. Nous avons ensuite une droite politique et religieuse qui se satisfait tout à fait du concordat et qui trouve que taillé au canif, comme on le dit, le concordat, c'est entamer une situation qui va se retourner contre la France, c'est déséquilibrer complètement le pays. Et dans cette droite classique, nous avons un abbé qui siège en soutane d'ailleurs, qui a laissé un nom et qui est l'abbé Guéraud. Et l'abbé Guéraud, qui est quelqu'un d'extrêmement intelligent et de posé, dit « mais… de toute façon, si vous arrivez à séparer l'Église de l'État, sachez qu'un jour nous reviendrons et cette loi sera changée et finalement la vieille tradition reprendra le dessus. » Il est plus modéré que les monarchistes d'extrême droite. Il défend les droits de l'Église. Et il a cet argument que la droite reprend à satiété, c'est que sans l'aide de l'Église catholique, la République ne vivra pas longtemps. Sans la structure qu'elle apporte par l'enseignement, par le travail dans les hôpitaux, par l'aide morale qu'elle apporte, par le fait qu'elle tient très souvent dans les communes le petit groupe de ceux qui dirigent, qu'elle impose une certaine morale, elle représente une espèce d'ossature dont on pense que la séparation va ruiner complètement l'aide qu'elle apporte à la société. Alors, l'abbé Guéraud, il va faire comme il peut en prédisant que ça sera une catastrophe si on sépare l'Église de l'État, mais que de toute façon, il y a des mots extraordinaires. L'Église a vécu depuis 20 siècles, elle a de quoi vivre encore pendant des siècles, elle attendra son heure, elle retrouvera sa puissance, et finalement, elle sait que l'avenir est pour elle. Ensuite, nous avons le centre-gauche et la gauche, formée de gens qui sont des démocrates ou des socialistes, et notamment emmenés grâce à l'éloquence de Jean Jaurès et des personnels qui appartiennent au parti radical, qui eux sont pour une séparation modérée, si j'ose dire, et n'étaient pas d'accord avec Combes, et qui vont être la force d'appui sur laquelle Aristide Briand va pouvoir s'appuyer, ainsi que sur les socialistes. Et puis nous avons une extrême gauche. Une extrême gauche, au début représentée par le petit père Combes, qui continue à batailler, il a perdu le gouvernement, mais il est toujours membre de la Chambre des députés, pour non pas le retour au concordat renforcé, il a compris que ça s'était dépassé, et surtout les relations internationales avec le Vatican ruinent l'espoir qu'on pourra revenir à cette situation, mais il est pour une loi sévère, une loi qui va tenir assez serré la situation de l'Église catholique. Mais il y a plus à gauche que le petit père Combes, qui est pour une solution quand même assez dure à l'égard des religions. On a une extrême gauche représentée par des socialistes radicaux qui frisent avec l'anarchisme quelquefois, en tout cas avec une idéologie d'un marxisme un peu simplifié, c'est le moins que l'on puisse dire. Et un des représentants, c'est un certain Maurice Allard, qui est député du Var, qui est radical socialiste pourtant, mais alors qui tient des propos qui pour nous font un peu rêver. Allard est un bon exemple de cette gauche qui a lu Marx. N'oubliez pas qu'en 1900, les gens qui ont 40 ans, hein, ils sont nés sous Napoléon III, hein, ils sont nés en 1860. Et donc, ils sont contemporains des œuvres majeures de Marx, notamment Le Capital, et puis tout ce qu'il a écrit après, notamment au début de la Troisième République pour nous en France. ces marxistes, ou à l'origine marxistes, vont jusqu'au bout d'une logique qui est un peu simplifiée, selon laquelle la religion est une expression des sociétés traditionnelles et que la société industrielle qui est en train de naître va balayer ces vieux oripeaux, ces vieilles traditions et qu'il n'en restera plus rien. Que, selon le mot de Hengel, on pourra remiser dans le musée avec la hache de pierre et la machine à tisser du XVIIe siècle, la religion. La religion est une forme ancienne qui ne résistera pas à quoi ? Eh bien, à la raison et à la science. Ce sont des gens qui pensent qu'en effet, les extraordinaires réussites de la science de la fin du XIXe siècle annoncent des temps où désormais on n'aura plus besoin de se réfugier dans la religion pour expliquer ce qu'est le monde, on pourra se débarrasser de ce qui apparaît comme une vision un peu infantile du monde et de la pensée. J'ai retrouvé une image de 1900 où on représente comme un calendrier des postes, si vous voulez, en 1900, ce que sera la vie en 1950. Vous seriez étonné de l'image qu'on se donne de la vie sociale en 1950. Pour vous en donner un exemple, eh bien, il ne sera plus nécessaire de descendre les 5 étages de son immeuble pour aller chercher le courrier dans la boîte aux lettres. Il y aura des postiers auxquels on attachera des petites ailes qui tournent et ils viendront à votre fenêtre du 5e étage vous donner la lettre. Autrement dit, il y aura un service aérien de la poste individualisé par postier. Et puis, on aura des trottoirs qui roulent. Et puis, on aura des voitures automobiles, ce qui était une grande nouveauté, et des machines qui feront tout ce qu'on est obligé de faire aujourd'hui manuellement. Une vision complètement enchantée qui, évidemment, n'a rien à voir avec ce qu'a été la société de 1950. Donc, imaginez que pour un certain nombre de gens très à gauche, la victoire de la science, du savoir, de la logique, sur les anciennes conceptions un peu archaïques de la religion, des histoires emblématiques, disons, des temps où on n'avait pas beaucoup de moyens pour résister aux forces de la nature. Cette vision-là était partagée par, certes pas la majorité, mais un petit groupe qui pensait que la religion avait fait son temps. Donc, vous voyez que nous avons 5 forces qui vont batailler, l'extrême droite, la droite, le centre, la gauche et l'extrême gauche. 5 forces qui vont batailler dans un univers où on adore les grands discours. On est encore dans une phase de la République où les discours marquent, où la presse rend compte, où tous les jours on se précipite sur le journal pour savoir ce qui a été dit à la Chambre et les débats vont s'engager entre la chute de Combes en 1904 et le vote de la loi en début décembre 1905. Alors, dernier moment, pour terminer notre préparation de la loi, quels sont les projets qui sont en présence là ? Vous avez au moins 3 projets. Le premier projet, du côté des réformateurs, hein, je ne parle pas de ceux qui veulent résister, qui pensent qu'il ne faut pas cette loi, mais du côté des gens qui sont favorables à une loi qui éclaircisse les relations entre la République et la religion. Vous avez un premier projet qui a été tenu longtemps par Combes, qu'on appelle la laïcité gallicane. Vous savez que le gallicanisme, c'est une des facettes du catholicisme français, un catholicisme à la française, depuis les prétentions de Louis XIV de faire en sorte qu'à l'intérieur du territoire français, c'est le roi qui décide et non pas le pape. Et vous savez que Louis XIV s'est opposé au pape en décidant que les textes pris par le Vatican n'avaient autorité que si le Parlement de Paris les votait. Autrement dit, un contrôle par l'État dans la vieille tradition des concordats depuis 1516, depuis François Ier, où le roi régule la présence, l'organisation et les droits de l'Église catholique. Alors, certes, l'Église a des droits particuliers, mais elle est soumise au contrôle du roi. Et notamment, il ne faut pas l'oublier, c'est le roi qui nomme les évêques. Le pape ne fait que leur donner la bénédiction apostolique, mais c'est le roi qui nomme les évêques et pas le pape, ce qui est une chose extraordinaire parce que les évêques, c'est ceux qui tiennent les diocèses et donc assurent l'autorité de la Sainte Église. Donc vous avez des partisans, notamment à gauche, pour une sorte de concordat amélioré, de concordat revu, une forme d'affirmation que la religion en France est soumise à l'autorité de l'État, le gallicanisme qui renaît de ses cendres. Vous avez ensuite, un peu plus au centre, une laïcité qu'on pourrait dire anti-religieuse, non pas plus au centre, mais plus à gauche, une laïcité anti-religieuse, qui pense que le concordat, ce n'est pas suffisant, c'est la position, je l'ai dit tout à l'heure, de Allard, il faut tout faire pour supprimer la présence de l'Église catholique, et la fois prochaine, je vous donnerai des exemples qui paraissent complètement aberrants, mais tout faire pour que on aide l'Église à disparaître du paysage social. Et puis, vous avez au début un petit groupe qui va petit à petit gagner des voix. C'est le groupe qui pense que la laïcité n'est ni gallicane ni anti-religieuse. Elle est un principe de liberté. Et c'est l'idée géniale d'Aristide Briand, soutenue par Jean Jaurès, qui est de dire « Nous ne voulons pas une loi anti-religieuse, nous voulons une loi qui sépare deux domaines de la vie sociale, la religion et la vie sociale et politique. » Et Briand, aidé par Jaurès, va se battre jour après jour, j'allais dire presque minute après minute, dans ce combat qui est mené pendant plusieurs mois, entre janvier 1905 et juin 1905, et puis qui va reprendre au Sénat en décembre 1905 de manière plus rapide, j'allais dire, la messe est dite, on sait que la loi désormais a conquis les esprits, mais qui va se battre, en tout cas pendant le premier semestre 1905, pied à pied, pas simplement contre l'extrême droite qui fait tout pour empêcher que la loi puisse être votée, mais contre cette extrême gauche qui durcit tellement le projet qu'il risque d'être abandonné par la gauche ou le centre qui, lui, est prêt à voter une loi, mais pas extrémiste. Enfin, en juin 1905, la loi est votée à la Chambre des députés. Je vous expliquerai la semaine prochaine en quelles conditions. La loi est votée et en décembre, elle est confirmée par le Sénat, de sorte que le 9 décembre, la loi paraît au journal officiel, d'où le fait que le 9 décembre, c'est-à-dire hier, est l'anniversaire de la loi, puisque c'est le jour où elle est promulguée, c'est-à-dire où elle devient obligatoire depuis le 9 décembre 1905. Je ne vous dis pas, mais ce sera pour plus tard, qu'il a fallu ensuite l'appliquer, ce qui n'a pas été une sinécure. Il y a eu d'énormes difficultés, provoquées notamment par l'Église catholique, qui continue à brandir son veto contre la loi. La loi a été votée contre son opposition et l'Église va tenter par tous les moyens d'empêcher l'exécution de la loi. Mais ça, c'est une autre question. À la semaine prochaine.
Laïcos, une émission proposée par Michel Niaille.